16.
Est-ce que j'ai ouvert le bon micro?
Oui, c'est toi. Est-ce que je suis encore en train de manger ma bouchée?
Ah, OK. Ben, tu m'as fait peur, là, parce que là, Maëlie me donne un autre défi psychologique aujourd'hui.
Ouais.
Donc, parlant de syndrome de l'imposteur, ben ici, je me sens minimalement compétente en général.
Fait que ça fait du bon micro.
Ça fait 5 ans que je fais ça. Fait que ça fait du bien un petit peu de compétence en fin de tu sais, dans le nombril de la semaine. Là. J'aime bien ça. C'est un petit souffle de bonheur pour moi. Donc, vous êtes de retour au 16. Hein? J'ai oublié de le spécifier. Vous êtes ici, là. Fait que...
Rie avec nous.
Il est 16h17, c'est pas une heure miroir.
Oh.
Même si tout le monde s'en calisse selon Maëlie.
Maëlie s'en calisse,
exactement. Je vous parlerai un jour des heures miroirs, de leur signification. Peut-être que vous allez être plus attentive aux heures miroirs par la suite.
Well, there you go.
OK.
Je vous initierai à ça.
D'accord, tu feras ça.
Donc,
on t'écoutera. Ben oui. Une semaine où est-ce que Maëlie n'est pas là?
Non, elle est là.
Oui, c'est ça, juste pour comme enfoncer le clou. Donc, syndrome de l'imposteur, quand la compétence ne suffit pas à se sentir légitime, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, premièrement, je vais vous faire un petit tour historique de qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur. Donc, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Ben, c'est un sentiment persistant de doute quant à sa légitimité, malgré des compétences, des réussites ou une reconnaissance objective par les pairs ou par d'autres personnes. Les personnes concernées attribuent souvent leur succès à de la chance, au contexte ou à l'aide d'autres personnes, comme moi, mettons, qui disait « Ah, merci d'avoir cru en moi aux autres personnes tu sais, dans des CP que j'ai rencontrées dans mon MPES. » plutôt qu'à leur capacité. Il ne s'agit pas d'un trouble qui est clinique. Là, c'est pas dans le DSM-5, genre.
Non.
On est-tu rendu au DSM-6?
Oui.
Là?
Okay, bon. 6, je ne sais pas.
Non, on est au 5. On s'enligne vers le 6. Mais théoriquement, ce qu'on dit, c'est que ça, ce syndrome-là, en un sens, c'est un trouble état. Genre, c'est un
dérivé d'anxiété, genre?
C'est genre un état...
Mais l'anxiété, c'est un full-on problème.
C'est
aussi.
Un état, en même temps, d'être genre un très... En tout cas, bref. C'est complexe.
Mon Dieu, j'embarquerai pas là-dedans, mais merci. Merci quand même. Fait que c'est un état slash un trait.
Ouais.
C'est bon. Donc, syndrome, c'est ça. Donc, exactement, c'est pas un trouble clinique, mais c'est un phénomène quand même psychologique très répandu.
Ouais.
Les origines, d'où ça vient ce nom-là, syndrome de l'imposteur? Ça vient, en fait, tu pourras me dire si j'ai raison, ça vient, en fait, c'est un concept qui a été identifié pour la première fois en 1978 par les psychologues Pauline Clance et Suzanne Imes. Il prend racine souvent dans l'environnement familial. Donc, ça peut venir de là. Donc, soit un de tes parents ou tes deux parents avaient des attentes élevées, du perfectionnisme où ils te comparaient sans arrêt à ton frère ou à tes sœurs ou peu importe. Ça peut créer un gros sentiment d'imposteur dans la vie.
Merci, papa.
On vous remercie. Moi, c'est pas dans ma famille, par exemple. Moi, je pense pas que c'est là que j'ai développé ça. Dans les parcours scolaires compétitifs, donc par exemple, si tu es en psycho puis que tu veux aller au doc. Donc, dans les milieux professionnels exigeants aussi, si tu travailles dans des lieux très normés, très exigeants, médecins, exactement. Donc ça peut engendrer un syndrome de l'imposteur. Il apparaît fréquemment lors de transitions, comme ce que je vis présentement. Donc, quand tu as une nouvelle fonction, si tu as une promotion, si tu fais un retour aux études aussi, tu parles le syndrome de l'imposteur. J'ai justement accompagné une fille à son local en géomatique, puis elle me disait « J'ai 40 ans, j'en viens aux études, j'ai l'impression de pas avoir rapport. » Je dis, inquiète-toi pas, regarde, moi, c'est ça qui est arrivé. Puis là, aujourd'hui, j'ai un bureau. Donc, ça va peut-être bien aller pour toi aussi. Prise de parole publique aussi peut créer un syndrome de l'imposteur. Dis, voyons, qu'est-ce que j'ai à dire, moi, finalement?
Ouais, je perds dans ces mots des fois, puis t'es là, ah, oh, shit.
Nous, on pourrait l'avoir des fois, parce que c'est pas toujours pertinent ce qu'on dit, mais il faut croire qu'on l'a pas ici. Donc, pourquoi est-ce qu'on ressent ça? C'est un écart entre l'image de soi et les attentes perçues. Donc, plus les standards vont être élevés, plus on va douter. Plus les standards perçus, des fois, ce n'est pas des vrais standards, c'est des standards que nous, on perçoit, qui sont élevés, plus on va douter. Il y a des biais cognitifs, en fait. On va minimiser nos réussites, on va surestimer celles des autres, on va se focaliser sur ses erreurs. Donc, ça va être vraiment un genre de focus sur les erreurs, puis minimiser ce qu'on fait de bien, puis mettre les autres sur des piédestals. Ça va être un petit peu ça. La peur aussi d'être démasqué. Le syndrome de l'imposteur alimente une insécurité chronique.
Parce que tu penses justement, toi, t'es genre, fuck, moi, je suis pas compétent. Fait que là, tout le monde va savoir que, genre, je suis en train de faker. Fait que là, faut que je m'assure que les gens, ils trouvent pas que je suis en train de faker.
Tu penses-tu que l'expression fake it till you make it vient de là?
Ben, ça se pourrait quand même. C'est vraiment bad, là.
C'est pas, oui, c'est ça. Parce que ce que ça dit, c'est ça, c'est que c'est une insécurité chronique, même en situation de réussite.
Ouais.
Fait que même si ça va bien.
T'as les preuves, mettons, les preuves objectives, que justement, t'es capable, t'es compétent, puis toi, tu fais. Ouais, mais non.
Voilà, je suis juste convaincue que ouais, comme j'étais bon.
Je suis trop bon pour genre prétendre.
C'est ça. Est-ce que c'est parce que je suis belle? Non, c'est ça. Donc, voilà.
I wish.
Donc, le syndrome peut aussi être un effet secondaire de la compétence. Plus on en sait, plus on mesure ce qu'on ne sait pas. Ça, c'est la courbe Kruger.
Ouais.
De dire, tu me voyais venir avec ça. Tu sais, je l'avais déjà mis sur mon mur LinkedIn à la maîtrise, entre autres. Parce qu'à la maîtrise, on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose.
C'est fuck all. Moins t'en sais sur de quoi, plus tu fais comme, ah, c'est beau, je connais full de ça. Puis plus t'en apprends, tu fais, oh non.
Damn.
Mais comme, nous autres, c'est basically notre slogan, là, la maîtrise, fait que tu new make it. Là.
Ouais, ouais. Ben, fait que tu sais, c'est ça. C'est que plus que t'en sais,
moins t'en sais.
Ouais. Tu sais, t'as l'impression, ben, en fait, c'est que t'arrives, tu commences à monter à montagne, tu penses que c'est le Mont Bellevue, puis finalement, t'es comme, fuck, c'est le Mont Everest.
Mais c'est parce que tu découvres d'autres affaires.
J'avais juste une barre grano là. J'étais pas préparée à cette ascension. Donc, voilà. Ensuite, pourquoi. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est pourquoi les femmes, on le vit plus. Bon. C'est sûr que, bon, oui, je te vois avec tes yeux. Ouais, on est socialisé, tu l'as déjà, t'en as déjà parlé dans une autre chronique, on est socialisé différemment de nos
Ma première chronique à vie ici, c'était ça.
Oui, c'est ça, la socialisation différenciée. Ouais. On n'est pas élevé, ben, pas élevé, mais oui.
Oui, 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 élevés, on est élevé différemment.
Que nos comparses avec pénis.
Masculin.
Tout à fait. avec option pénis. pénis premium. Donc, voilà, donc nous qui n'avons pas de pénis.
Ça n'est pas acquis, hein?
Oui. On a du vécu. Donc, pourquoi les femmes, on le vit davantage? Ben c'est ça, on était socialisés. On va laisser une
petite... On va laisser Fran prendre son souffle.
Option pénis, elle l'a trouvé drôle.
Non. Je pense que c'est le premium qui l'a acheté.
Premium, ouais, c'est ça.
L'option pénis, c'était hilarant. J'adore.
Merci.
Belle joke.
Merci, je me sens très compétente. Merci.
Il fallait qu'on parle de cul. Hein.
Ben, moi, c'est automatique, je vous l'ai dit. Donc, les femmes, en fait, on a été socialisées à douter, hein? À être modeste, parce qu'on se fait souvent dire « sois modeste », parce que sinon, t'as l'air d'une grosse crise de ventre.
Exact.
Hein? Tandis qu'un gars, lui, s'il est pas modeste, il a de l'assurance. Hein?
Ouais, ouais, ben, ouais, oui, absolument.
Sûr de lui, c'est bien.
Connais ta place, Véro. Retourne dans la cuisine.
Ils ont le droit de se vanter. Eux, nous, si tu le fais, c'est franchement pour qui tu te prends.
Puis, par le même fait aussi, de pas prendre trop de place. Puis moi, ça a été quelque chose que je me suis fait taper dessus toute ma vie, parce que, tu sais, quand t'es TDAH... avec hyperactivité, t'en prends de la place, tu déplaces de l'air. T'es, comme dirait mon ami hier, t'es très présente. Hein? Fait que, tu sais, je veux dire, t'es très présente. Fait que là, les gens sont comme, peux-tu être moins présente, s'il te plaît? Puis là, toi, t'es comme, j'ai mal à l'amour, j'ai mal dans les yeux.
T'es très présente. C'est une belle façon de dire, ferme ta gueule.
Ben, tu sais, ouais, ben c'est ça. J'ai lu ça, puis j'ai fait, ouais, c'est vrai, mais en même temps, ouch. Fait que, c'est pour dire.
Véro, nous, on aime ça que tu sois très présente.
Merci, les filles.
Donc, pas comme Maëlie.
J'ai justement répondu, je sais pas si je me sens bien avec ce que tu viens de dire. Je sais pas. Je pense que la réponse est non. Donc, ensuite, elles évoluent aussi dans des environnements, les femmes, où est-ce que leurs compétences sont plus remises en question.
Ah oui, oui, oui. Mais tu sais, surtout les postes, mettons, le leadership ou quoi que ce soit, c'est non, mais une femme n'aura pas nécessairement les compétences décisionnelles ou comme, mettons, la volonté ou elle n'a pas assez d'autorité. Non, non. T'es comme de fuck, là.
Entreprises avec des gestionnaires féminins.
Oui!
Ils vont très bien.
Oui, mais les entreprises avec des gestionnaires féminins, il y a des gestionnaires féminins, on dirait qu'ils veulent contrebalancer ce nom de l'imposteur en étant des bitches. En tout cas, c'est pas toutes les filles, mais il y a des certaines gestionnaires que j'ai eues dans ma vie que c'était comme.
Mais ils n'ont comme pas le choix, justement, de se mettre un masque.
Égal. Oui, ouais, c'est ça. Puis ensuite aussi, leurs succès sont moins spontanément attribués à leur talent dans la vie.
Oui, c'est plus sur la beauté.
Ouais.
Ou qui t'a sucé pour te rendre.
She sleeps her way to the top.
Yep. D'ailleurs, souvent, on remarque que quand les femmes font des lettres de motivation, t'sais, pour un emploi, elles vont moins vanter leurs accomplissements.
Ouais, leur qualité, leur
Elles vont plus dire comment elles sont, leur qualité humaine, mais vont moins, t'sais, les hommes vont souvent appuyer sur j'ai publié ci, j'ai fait ça, je suis le roi de tout et j'ai une option pénis premium. Donc, voilà. Ensuite, les femmes sont aussi plus souvent confrontées à la pression de la perfection, on l'a déjà dit.
Ouais.
Le double standard, être compétente, mais pas trop affirmée. Garder sa place. Donc, enfin, elle parle aussi plus ouvertement, hein, en général, des ressentis. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que c'est plus chez les femmes.
Peut-être. Puis, tu sais, justement, en parlant de parole, là, ça arrive quand même souvent que des femmes là, vont se faire, mettons, couper ou vont se faire arrêter dans leurs idées, quoi que ce soit. Ils n'auront pas nécessairement la parole non plus. Fait que des fois, genre, te sentir compétente dans des entreprises ou quoi que ce soit.
Ouais.
Tu es capable de verbaliser, puis tout, ça fait quand même partie de, là, en tout cas.
Ben oui, c'est ça. Il y a des hommes qui n'aiment pas ça quand on parle.
Et beaucoup.
Désolée, on parle. Fait que change de poste. Donc, tout ça pour dire que ben, les hommes aussi, quand même, hein, je veux être EDI, peuvent vivre aussi le syndrome d'imposteur, mais l'expriment souvent différemment. Soit qu'ils vont faire du surinvestissement, de l'évitement, du sentiment où ils vont avoir un sentiment de devoir tout maîtriser seul, le fameux syndrome du pilier, là, tu sais, genre, puis c'est souvent ça qui mène en dépression aussi.
C'est le syndrome de sauveur, justement, aussi, qu'il faut tout que tu règles tout le monde.
Puis t'es comme le pilier de la famille, ouais, tu sais, ouais. Genre, tu vois le genre. Là.
Genre, t'as pas rapport.
Le genre de stéréotype qui m'écœure, là, en tout cas, bref.
Alpha male type of shit.
En tant que LGBT, je déteste. Ensuite, les normes de virilité valorisent la confiance aussi et la certitude, ce qui rend parfois ce doute moins verbalisé. Ouais. Voilà. Ce qui est important de retenir de cette chronique, c'est que le syndrome de l'imposteur ne dit rien au niveau réel de la compétence. Ça ne veut pas dire que parce que tu ressens ça, tu es réellement incompétent. Parce que les gens réellement incompétents, ils ressentent pas ça.
Souvent, ils se trouvent compétents.
Oui, c'est ça. À tort. Mais c'est sûr qu'il y a des gens sûrement qui ont le syndrome d'imposteur puis qui ont raison. Il y a des gens qui l'ont pas puis qui devraient. Puis il y a des gens qui l'ont mais qui sont compétents. Ouais. Je pense qu'il y a les trois classes de personnes aussi. Puis je sais que c'est mindfucking ce que je viens de dire parce qu'il y avait plein de catégories toutes mêlées. Il est souvent le signe aussi, le syndrome d'un fort engagement. Donc, c'est les gens souvent qui sont très engagés, qui vont ressentir ça, d'une conscience professionnelle élevée. Donc, on veut bien faire.
Mais ils sont consciencieux, oui, effectivement. Exact. Puis souvent, des fois, c'est des obsessionnels compulsifs, des
tocs. Oui, c'est ça. Toutes sortes d'autres choses qui sont dans le DSM. 6, 5, on ne sait pas. Donc, en parler, ben, ça permet de normaliser l'expérience. Donc, ce que je fais en ce moment, en parler à la ville de Sherbrooke, c'est bien. Donc, voilà.
Do it.
Pour normaliser l'expérience. Développer des stratégies d'auto-reconnaissance aussi, comme, je sais pas, s'acheter un biscuit. Quand on fait quelque chose de bien. Non, mais c'est une blague, là, mais tu sais, l'auto-reconnaissance.
Non, forcément.
Non, ça marche.
Non, mais tu sais, des fois, moi, ce que je fais.
Pavlov yourself. Yeah.
Je salive beaucoup. Non, mais c'est ça, mais comme. Là, je me suis dit aujourd'hui, je vais noter ce que je fais. Parce que des fois, j'ai l'impression que, en début de poste, on est un peu comme on court après notre queue, comme on sait pas trop ce qu'on est. Fait que, tu sais, noter ce que j'ai fait dans ma journée pour avoir un sentiment d'accomplissement minimum. Là, parce que
ça donne une structure aussi.
Oui, c'est ça, tu sais, de dire bon, ben, j'ai fait ça, j'ai révisé ça, j'ai répondu à tel, j'ai fait ci. Fait que, tu sais, tu fais de quoi, là? T'es pas payé dans le beurre, là. Mais, tu sais, c'est comme moi, j'ai l'impression, des fois, quand t'arrives, t'es pas tout à fait up to run. Mm-hmm. Puis de ce que j'ai compris, c'est que le poste dans lequel je suis, un poste de CP, c'est long quand même, le développement professionnel. Mm-hmm. Là,
mais quand même, tu le développes un peu à ta propre sauce à toi, là, parce que c'est pas tout le monde qui agit comme CP en tant que la même façon. Là.
Non, c'est des postes qui sont très. Les contours sont très flous. Ouais. Puis ça peut être très différent selon où est-ce que tu es CP, programme, techno, pédagogue, CP numérique, mm-hmm. bref, cégep, université. Ça peut être vraiment différent. Fait que tu sais, c'est dur de définir c'est quoi exactement. Tu sais, il n'y a pas genre, tu es un médecin, tu soignes des bobos. Là, tu sais, là, c'est comme. C'est très, très flou.
Fait que pour ton syndrome de l'imposteur, c'est pas super.
C'est pas super. Fait qu'il va falloir que je sois patiente, ce qui est ma plus grande qualité, c'est connu. d'être patiente justement pour me laisser me développer sans paniquer. Mm-hmm. C'est ça que j'en retire. Puis normaliser l'expérience, développer des stratégies, puis transformer aussi ce doute-là en levier de réflexion plutôt qu'en frein. Fait que ça, je trouve ça bien. Je suis contente d'avoir mon psy. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Quoique, j'ai jamais mes rendez-vous au bon moment. T'sais, parce que l'événement que je vous ai raconté hors d'onde, il est arrivé juste après ma séance.
Fait que là, tu vas y en parler à prochaine séance.
C'est ça. Fait que j'aimerais ça des fois avoir un Uber psy. Ouais. Tu sais, genre, t'es sur le bord de la King, genre quartier, tu broyes. Là, tu textes. Viens-t'en. C'est l'heure. Tu veux que je braille? Là, je braille.
L'application Dialogue.
Dialogue, c'est vrai.
Oui, c'est ça. T'es comme là.
Tu peux avoir accès à 24 heures sur 24 à quelqu'un.
Mais c'est
texter.
Pas sa psy.
Non, ça sera pas ta psy, mais au moins, tu pourrais parler à quelqu'un.
Non, c'est parce que des fois, t'arrives, tu sais, chez ton psy, puis il est comme, bon, j'aimerais ça que t'aies des émotions maintenant. Ah. 10h01, non, c'est ça. Fait que là, t'es comme, ben, je ressens rien présentement. Mais ça se peut que tantôt, je broye en allant chez nous, que je fasse de la boucane. Parce qu'il fait moins 15. voilà. Alors, c'était ma petite chronique. Donc, je clôturerai ça en disant que vous n'êtes pas tout seul si vous ressentez le syndrome de l'imposteur, peu importe dans quel rôle vous êtes. L'idée, c'est de vérifier si vous êtes vraiment incompétent. Une fois que c'est vérifié, ben, il faut être patient puis construire tranquillement, brique par brique, le rôle. C'était pas rassurant ce que je viens de dire. Mais bref.
Mais c'est toujours bien de commencer par checker si tu es compétent.
Ouais, c'est ça. Mais tu vas le devenir, en tout cas, si tu ne l'es pas tout à fait. Tu sais, moi, je peux pas dire, ben, je ne suis pas incompétente, mais je veux dire, je ne suis pas encore à ma pleine compétence.
Mais non, finalement, c'est le devenir, oui.
Ah oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut être patient. Puis, tu sais, des fois, on veut être bon tout de suite parce qu'on veut surtout pas que les gens regrettent. Ça aussi, les femmes, on est fortes là-dessus. Tu sais, genre.
Le regret, oui.
Ben, tu sais, genre, il y avait plusieurs candidats, ils m'ont choisi, donc je dois être parfaite parce que là, sinon, ils vont regretter. Tu sais, ils vont avoir des regrets, nos regrets. Tu sais, je veux dire.
Qui regrette ceci?
Ben, tu sais, c'est ça. Fait que, bref, tout ça pour dire, c'était ma petite chronique sur mon vécu personnel. Et je suis contente de voir que je n'étais pas trop dans le champ aussi.
Non, petite parenthèse par contre, sinon ma directrice de recherche, elle ne va pas être contente si je ne le dis pas, mais on aime mieux utiliser le terme phénomène de l'imposteur, vu que c'est quelque chose qui est encore en développement, puis que c'est très, très large, puis ce n'est pas une pathologie en tant que telle, fait que c'est pas un syndrome. Ah.
C'est pas un syndrome, c'est ça. OK. Fait que le phénomène, puis en plus, il me semble que c'est plus positif. Ouais. Tu as un syndrome, on dirait que tu vas mourir. Ouais. C'est phénomène, c'est comment?
Mais c'est ça, c'est pas une pathologie. J'avais écrit ça dans mon travail de recherche, puis elle m'a tapé sur les doigts.
Bon.
Ben, gentiment, mais ouais.
On la salue. C'est qui ta...
C'est Marie-Claude Lallier-Baudouin.
Bon, ben, professeur Lallier-Baudouin, on vous salue et je m'excuse, moi aussi, mais moi, je suis pas en psychologie, donc c'est normal que je ne le savais pas. Mais j'apprécie de savoir que je suis dans un phénomène et non un syndrome et que je vais rester bien vivante.
Yep.
Donc, voilà, on s'en va en petite pause musicale et on revient par la suite pour la deuxième chronique de cette deuxième émission du 16. Restez avec nous.